Bon, ce soir, dans notre cycle sur les pays du Golfe, nous abordons, j'allais dire enfin, le Yémen. Il y a une certaine actualité à parler du Yémen. C'est vrai que jusqu'à présent, à l'ISM et dans le cycle des conférences, on n'en a pas vraiment parlé. Il y a été fait allusion de temps en temps pour dire que le Yémen était un cas particulier par rapport aux autres pays de la presqu'île arabique, par l'importance de sa population, par sa pauvreté aussi par rapport aux autres pays. Et donc, je crois qu'il était nécessaire que nous parlions du Yémen avec en plus les événements actuels et même les événements tout récents des 2 derniers jours. Donc voilà, c'est l'occasion. Et pour en parler, nous avons Franck Mermier, qui est au CNRS, à l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain, et qui a vécu plusieurs années au Yémen, et qui a publié plusieurs livres sur le Yémen. Il a une deuxième carrière ensuite au Liban et sur Beyrouth, mais donc. Sur le Yémen particulièrement, il a publié Le Cheikh de la nuit, Sanaa, Organisation des souks et sociétés citadines. Il a dirigé des ouvrages, Le Yémen contemporain, chez Kartala en 1999, et Sanaa hors les murs, une ville arabe contemporaine, en 1995, plus les cahiers bibliographiques sur le Yémen au CEDEJ en 1990. Alors, je crois qu'il connaît bien le sujet. Je pense qu'il a suivi un peu l'actualité aussi. Et je lui donne la parole.
Merci Bernard. Donc, bonsoir à tous. Alors, effectivement, c'est une date qui n'a pas été choisie en connaissance de cause, puisqu'on avait décidé de cette conférence bien longtemps à l'avance. Mais effectivement, ça coïncide avec le dimanche 22 mai. Et 21 ans de l'unité yéménite, mais aussi le fait que ce jour-là, on attendait, ou certains attendaient que le président Saleh signe l'accord de sortie de crise présenté par les pays du Conseil de coopération du Golfe, ce qu'il a refusé de faire. Alors je vais, dans cette présentation, parler du Yémen et de ses liens avec les autres pays de la péninsule arabique, notamment les pays du Golfe, et aussi évidemment centrer une partie de l'exposé sur, une grande partie de l'exposé même, sur ce qui se déroule depuis le mois de janvier au Yémen, c'est-à-dire cette contestation qui a été aussi influencée bien sûr par les révolutions en Tunisie et en Égypte, mais qui possède évidemment sa propre logique et ses causes internes. Alors, je pense que ce qu'on pourrait dire dans un premier temps, c'est que c'est vrai qu'on parle beaucoup de pays du Golfe, mais on oublie souvent sans doute que ces pays du Golfe sont inscrits dans un ensemble régional qui s'appelle tout simplement la péninsule arabique. Et la péninsule arabique comporte évidemment ces pays du Golfe, l'Arabie saoudite et également le Yémen. Et donc le fait qu'il existe une entité régionale qui s'appelle aussi le Conseil de coopération du Golfe, finalement implique une frontière un peu artificielle entre les autres pays de la péninsule arabique et le Yémen, le Conseil de coopération du Golfe étant ce club fermé des monarchies pétrolières, qui donc trace une ligne de fracture un peu artificielle avec le Yémen. Alors, comme l'a évoqué Bernard Hébergé, le Yémen est un singularise évidemment dans la péninsule arabique, parce qu'il est un des pays les plus peuplés, 24 millions d'habitants à peu près. Il est né aussi la seule république. Sa population est aussi encore largement rurale. Et c'est aussi le pays le plus pauvre, avec un revenu moyen de 760 dollars par an, soit 40 fois moins que la moyenne du revenu des autres pays de la péninsule arabique. Donc, vous voyez ce contraste qui est extrêmement fort. Le taux de chômage, on ne le sait pas exactement. La Banque mondiale le situe à 30% parmi la jeunesse, tout simplement. On verra que justement, la jeunesse est un ferment de la contestation très important. Et puis, autre particularité aussi, c'est que ses ressources en pétrole et en gaz sont limitées et représentent, là c'est moins un contraste, l'essentiel du budget de l'État. Alors, qu'est-ce qui aussi fait que le Yémen partage avec ses voisins plus riches des traits communs aussi? Il y a des traits communs aussi que l'on peut situer dans l'histoire. Par exemple, l'occupation ottomane, qui a existé aussi dans cette région du monde, a laissé un héritage moindre que dans d'autres pays du monde arabe, dans d'autres parties de l'Empire, du fait d'une emprise souvent limitée de la période ottomane. Aussi, la présence coloniale, britannique essentiellement, y a été moins forte que dans d'autres parties du monde arabe, et à l'exception d'Aden, qui est une exception très importante, ne s'est pas traduite par une emprise sociale et culturelle aussi forte. Cependant, la politique coloniale britannique a contribué à tracer les frontières des nouvelles entités étatiques, notamment dans les Émirats, qui existent jusqu'à aujourd'hui, en consacrant la domination de certains chers sur ces nouvelles nations qui étaient en gestation. Un autre contraste aussi extrêmement grand, c'est, j'allais dire, les paysages urbains des pays de la péninsule arabique et du Yémen, qui contrastent largement. Les autres pays de la péninsule arabique sont largement urbanisés et sont caractérisés aussi par un urbanisme tout à fait particulier, très états-unien dans sa forme, et qui est bien sûr dû en grande partie par l'irruption de l'or noir dans ces pays. Mais s'il y a un point commun aussi à chercher entre les pays de la péninsule arabique, c'est aussi le fait que ces pays disposaient de villes réduites par rapport aux grands centres urbains qui étaient le Caire, Alexandrie, Bagdad, Alep, Damas. Et donc il y a quelque part un système urbain un peu différent qui caractérisait l'ensemble de la péninsule arabique et qui a été détruit, si on peut dire, par l'irruption de l'or noir, qui a renforcé les différenciations entre les pays de la péninsule et le Yémen. Pour rappel, la rente pétrolière a drainé au profit de ces pays, évidemment, les flux économiques et financiers extrêmement importants, et aussi une émigration arabe et asiatique très importante, a transformé les structures urbaines et a édifié un nouvel urbanisme de type moderniste, avec aussi une ségrégation ethnique très importante dans les pays de la péninsule, ce qui n'existe pas au Yémen. Une chose intéressante aussi à relever, c'est que lors de la parenthèse britannique au Yémen du Sud principalement, entre 1839 et 1967, les Anglais débarquent à Aden en 1839, il est intéressant de relever que Aden, dans les années 50, va distancer les autres villes de la péninsule arabique, aussi bien Koweït que Abu Dhabi ou Dubaï, et va les distancer et va devenir une espèce de plateforme de la modernité, si on peut dire, entre guillemets, en utilisant des guillemets, dans la région. Et Aden va être à peu près le quatrième port du monde à cette époque. Et va aussi être un foyer d'effervescence politique très important, avec la création de clubs, de journaux, etc. Et aussi, surtout, une mobilisation syndicale et politique très forte contre la présence britannique. Alors, le Yémen est unifié depuis le 22 mai 1990, mais il existait avant cette date sous la forme de deux États, le Yémen du Sud et le Yémen du Nord, et ces deux pays, ces deux entités étatiques, vont entretenir des relations extrêmement différenciées avec le reste de la péninsule arabique. Alors, citer simplement comme rappel historique la révolution au Yémen du Nord à partir de 1962, hein, la chute de l'imamat, la naissance d'un régime républicain à Sanaa en 1962, et le fait que les partisans de l'imam, de la royauté si on peut dire, étaient soutenus par l'Arabie saoudite, donc, qui interfère là directement dans les affaires yéménites, tandis que les républicains étaient soutenus par Nasser. Et cette guerre inter-yéménite, avec aussi l'ingérence des Égyptiens et des Saoudiens, va être aussi une traduction de la guerre froide sur le territoire yéménite. Le Yémen du Sud, qui est créé en 1967, après une lutte de guérilla contre l'occupation britannique et contre les forces de la Fédération d'Arabie du Sud, qui a été cette entité créée avant 67 pour rassembler les différents sultanats et cheikhats du Yémen du Sud. Le Yémen du Sud va être en but également à l'hostilité de l'Arabie saoudite qui va soutenir les guérillas d'ex-exilés réfugiés en Arabie saoudite qui vont essayer de affaiblir le régime qui va devenir de plus en plus marxiste de l'Arabie, du Yémen du Sud. Donc, on le voit, c'est surtout pour le Yémen, c'est surtout avec l'Arabie saoudite que les relations vont être à la fois étroites, entremêlées et aussi marquées par un conflit historique sur des revendications territoriales. Là, il faut rappeler évidemment le fait que l'Arabie saoudite a annexé les territoires de Jizan, Asir et Najran en 1934, à l'époque de l'imam Yahya, au nord, et après une courte guerre qui s'est conclue par un traité, le traité de Taïf. Et dans ce traité, il était stipulé que la souveraineté sur ces territoires devait être renégociée tous les 20 ans. Ce n'est qu'en 2000 que le litige frontalier entre le Yémen et l'Arabie saoudite a été réglé, a trouvé même une conclusion, je pense, définitive, avec l'abandon de la revendication yéménite sur ces territoires. Et en contrepartie, si on peut dire, le Yémen s'est engagé à surveiller étroitement ses frontières, ses façades maritimes et terrestres, pour le contrôle des flux migratoires, la contrebande qui est importante entre le Yémen et l'Arabie saoudite, les trafics d'êtres humains, etc. La France a été impliquée aussi dans cet accord, dans le sens où, en 2009, le groupe EADS a conclu un contrat avec l'Arabie saoudite pour la construction d'un mur de sécurité sur la frontière yéméno-saoudienne, tandis que le groupe Thales, français Thales, fournit depuis le début des années 2000 du matériel visant à la protection des côtes et frontières yéménites. Alors, est-ce que peut-être que ça a un lien, peut-être de cause à effet, avec le fait qu'en 2010, la France a décerné la Légion d'honneur à Ammar al-Ahmar, c'est-à-dire le neveu du président Saleh, donc en 2010, qui est le chef, Ammar est le chef de la Sûreté nationale qui n'est pas en reste dans la répression sauvage que subissent les manifestants yéménites depuis plusieurs mois. Et depuis plusieurs mois, et même avant les événements de janvier, si on pense évidemment à ce qui s'est passé depuis les années 2000. Alors, une caractéristique du Yémen, c'est que le Yémen du Sud a été le seul régime marxiste dans le monde arabe. La République populaire et démocratique du Yémen, démocratique et populaire du Yémen, qui s'est réclamée du marxisme, et durant sa courte existence, de 1967 à 1990, il a été base de l'influence soviétique dans la région. Bien sûr, il y avait ensuite l'Éthiopie, à partir de 1974, mais le Yémen du Sud a été une base de cette influence soviétique. Elle a été aussi la capitale des mouvements de libération arabe, notamment palestiniens. On pense au lien très fort qui existait entre le Front populaire de libération de la Palestine de Georges Habash ou le Front démocratique populaire de libération de la Palestine de Nahir Hawatmeh avec Aden, avec le régime de Aden, mais aussi avec les différentes organisations de libération progressiste, marxiste, en Irak et dans le reste de la péninsule arabique. Donc le Yémen du Sud était devenu un foyer révolutionnaire et qui a été menacé dans ses premières années de son existence par la République arabe du Yémen, soutenue par l'Arabie saoudite. Et le régime d'Aden s'est défendu aussi en armant les mouvements d'opposition dans la péninsule arabique, notamment dans la République arabe du Yémen, en armant et en aidant le Front national démocratique qui déployait une guérilla dans les provinces méridionales du Yémen du Nord, et aussi dans le sultanat d'Oman, à l'Est, notamment avec le Front de libération du Dhofar, qui a été actif dans les années, la fin des années 60, début des années 70, qui s'est ensuite appelé d'ailleurs Front populaire de libération du Golfe arabe occupé. Donc on voit aussi que son ambition était débordée le Dhofar. Et cette guérilla a pris fin en 75, elle était aidée par le régime d'Aden. Et l'on voit là ici un poster, enfin là une couverture de livre, mais certains peut-être se souviennent de ce poster qui ornait les chambres de certains militants parisiens qui étaient à l'époque solidaires de la lutte dhofari. Et cette image qu'on retrouve sur la couverture de la traduction en français du roman de l'Égyptien Sonarla Ibrahim, qui a écrit un roman sur cette qui a rendu hommage, qui rend hommage d'ailleurs à ces femmes, Warda, en lutte au Dhofar. Alors les relations entre, puisque notre sujet est les interférences entre le Yémen et le reste de la péninsule arabique, les relations entre le Yémen et l'Oman, le Yémen du Sud, restèrent tendues jusqu'à un accord survenu entre les deux parties en 1982 grâce à la médiation du Koweït. Donc on voit bien aussi qu'à chaque fois, il y a un pays tiers à l'intérieur de la péninsule arabique qui joue un rôle important dans la résolution des litiges ou des conflits. En 1992, après l'unité qui a eu lieu en 90, un accord a été signé entre le Yémen et l'Oman pour le règlement d'un litige frontalier. Après la guerre de 1994, la guerre interyéménite de 94, qui a vu la chute de l'éphémère République démocratique du Yémen à Aden, donc cette tentative séparatiste lancée par Ali Salem al-Bid, le secrétaire général du Parti socialiste yéménite, Oman a accueilli Ali Salem al-Bid, donc le président de cette éphémère République démocratique du Sud, à condition qu'il n'exerce aucune activité politique. Et Oman resta le seul allié du Yémen au sein du Conseil de coopération du Golfe et a soutenu sa candidature pour intégrer cette organisation, pour que le Yémen intègre le Conseil de coopération du Golfe, mais sans succès. Sauf qu'en 2001, le Yémen a réussi à être représenté au sein de quelques comités du Conseil de coopération du Golfe. Alors le Yémen a entretenu des relations positives avec les deux Yémens. Pardon, le Koweït a entretenu des relations positives avec les deux Yémens, sauf que on a vu que ce pays jouait un rôle diplomatique important entre le Oman et le Yémen du Sud. Et pendant longtemps, il a été le seul pays à entretenir des relations diplomatiques avec le Yémen du Sud. Mais dans le même temps, il a accordé une aide très importante au Yémen du Nord, notamment dans le financement d'une université, d'un hôpital. Et ces relations ont été totalement coupées après la guerre de 1990. Le régime du président Saleh ayant pris une position favorable à l'Irak durant l'invasion du Koweït. Alors pour revenir à d'autres pays du Golfe et de leurs relations avec le Yémen, on peut aussi parler de l'émir d'Abu Dhabi, le cheikh Zayed Al-Nahyan, qui se réclame d'une vieille origine yéménite, d'une tribu du Djouf. Et c'est ce qui lui a fait contribuer financièrement à la reconstruction du barrage de Mareb en 1986. Barrage dont dont la première destruction, est relatée dans le Coran. Et après l'Arabie Saoudite, il est vrai que les Yéménites sont répartis principalement dans les Émirats, où il y aurait à peu près 35 000 Yéménites, au Qatar et au Bahreïn. Et dans les Émirats, de nombreux Yéménites travaillent notamment dans les forces de police des Émirats. Et actuellement, par exemple, le fils d'Ali Salem al-Bid, donc le dirigeant sécessionniste, contrôle plusieurs entreprises dans les Émirats, à Dubaï notamment. On verra par la suite le rôle joué par Qatar au Yémen, mais il faut savoir aussi que ce rôle se développe surtout à partir de 1995. 15, dès la prise de pouvoir de Hamad El Khalifa, qui prend ses distances avec l'Arabie Saoudite, entretient des liens étroits avec les États-Unis et joue un rôle considérable sur la sphère médiatique en créant Al Jazeera. Et donc, à partir de cette date, effectivement, Qatar commence à être aussi un acteur important au Yémen. Alors, c'est surtout avec l'Arabie saoudite, comme on l'a dit, que le Yémen entretient des relations étroites, compliquées et aussi ambiguës. On peut remonter, si on veut faire un peu de culturalisme, et on ne le fera pas ici, mais c'est juste pour l'anecdote, à une anecdote qui n'en est pas tant une, puisque quelquefois cela a des effets dans le discours politique. On peut remonter à une vieille rivalité des Arabes du Nord et des Arabes du Sud. Arabes du Nord dont les ancêtres sont Annan, et Arabes du Sud dont l'ancêtre est Kartan. Et c'est une rivalité qui a entretenu des alliances politiques tout au long de l'histoire des pays arabes, jusqu'à très récemment. Ça a été un ressort des alliances et des luttes politiques dans tout l'Orient arabe, cette différenciation mythique entre Arabes du Sud et Arabes du Nord. Mais il suffit tout simplement de dire que dans la période récente, les Yéménites ont généralement perçu assez négativement le rôle de l'Arabie saoudite au Yémen, du fait de sa mainmise sur des territoires yéménites, du fait aussi des ingérences saoudiennes dans les affaires yéménites. Ça ajoute aussi une dimension morale, du fait que les yéménites étant plus riches, plus d'argent, etc., ils ont aussi supposément une vie un peu plus dissolue. Il y a une dimension morale dans cette perception des Saoudiens. Et il est vrai que les villégiatures d'hommes célibataires à Aden sont aussi très mal vues par une partie de la population yéménite. Mais il y a aussi un ressentiment qui est né par le sentiment des yéménites d'être infériorisés par une certaine arrogance saoudienne, et notamment de la part des yéménites qui se trouvaient en Arabie saoudite, des centaines de milliers de yéménites qui étaient immigrés en Arabie saoudite, et qui étaient, pour la plupart, cantonnés dans des tâches subalternes, notamment dans la construction et la restauration. Mais il faut aussi, faire une nuance en mentionnant le cas des Hadramites, des gens du Hadramout, qui, eux, entretiennent des relations très anciennes, une partie d'entre eux entretiennent des relations très anciennes avec l'Arabie saoudite, et qui ont souvent tiré leur épingle du jeu de leur immigration en Arabie saoudite. Il n'est que de mentionner le cas des familles de commerçants, Hadrami, à Jeddah notamment, ou à Riyad, dont beaucoup sont présents dans le secteur bancaire, comme les familles Ben Laden, Mahfouz, Ben Mahfouz, Bazara, etc. Et aussi le fait que l'Arabie saoudite a accueilli souvent des réfugiés du Yémen du Sud, notamment, des anciens opposants au régime marxiste, et accueille toujours jusqu'à aujourd'hui des anciens sultans, l'ex-premier ministre du Sud, Haïdar Aboubakr Attas, etc. Jusqu'en 1991, les yéménites représentaient près d'un tiers des immigrés présents en Arabie saoudite. Cette proportion a ensuite décru, descendue en raison de la concurrence exercée par l'immigration asiatique. Mais la plus grande partie de la population émigrée yéménite était en Arabie saoudite, près des 4/5. Et l'Arabie saoudite a entretenu aussi une relation difficile avec le président Ali Abdallah Saleh, notamment au moment de la guerre du Golfe, puisqu'on a vu l'alignement de la position yéménite avec la position irakienne. Enfin, c'est plus complexe, mais disons pour aller vite. Et en mesure de rétorsion, l'Arabie saoudite a expulsé près de 700 000 yéménites en 91, ce qui a évidemment été non seulement perçu négativement, mais a eu des effets très négatifs sur l'économie yéménite. Pour l'Arabie saoudite, les affaires yéménites sont considérées comme une affaire intérieure au royaume. Je crois que c'est important de prendre ça en considération. Après le soutien aux forces royalistes durant la guerre civile de 62 à 70, l'Arabie saoudite a eu une influence très importante dans les affaires intérieures yéménites, les affaires politiques. Il n'est que de mentionner l'assassinat d'Ibrahim al-Hamdi en 1977, qui était proche ou près de faire un accord d'unité avec l'ex-Yémen du Sud. Et qui a débarrassé finalement l'establishment tribal d'un rival politique très important qui menaçait de saper le pouvoir des tribus. Durant les années 80 et 90, le prince sultan en Arabie saoudite était en charge des affaires des yéménites. C'était le premier ministre l'ex-premier, donc il était Premier ministre à cette époque, il était ministre de la Défense. Et aujourd'hui, il semblerait que depuis les années 2000, le dossier yéménite soit passé entre les mains du prince Nayef. Mais on voit bien une spécialisation à l'intérieur de la famille royale en ce qui concerne le dossier yéménite. Alors, parmi les interférences et les conséquences de cette interférence sur le système politique yéménite, on peut mentionner le fait que l'Arabie saoudite a contribué au pouvoir d'un certain nombre de chefs de tribu au Yémen. Donc a renforcé finalement l'establishment tribal au Yémen, de même qu'il a contribué aussi à développer une forme d'islam conservateur et puritain par le biais du financement d'un système parallèle éducatif parallèle qui s'appelle les instituts scientifiques, Al-Ma'ahed Al-Almiya, qui ne furent dissous que très récemment, dans les années 2000. L'État yéménite aussi verse des subsides et des salaires même aux chairs du tribu, ce qui pèse d'un poids important sur le budget du Yémen, qui est très réduit. Mais l'Arabie saoudite aussi verse des subsides mensuels à des chairs de tribu, et notamment au premier d'entre eux, Abdallah Al-Ahmar, le chef de la tribu Hached, la confédération tribale des Hached, qui est décédé en 2007 et qui a été succédé par son fils Sadek. On parle même d'un versement d'un salaire mensuel. Donc finalement, le rôle traditionnel des chairs de tribu de médiateurs s'est doublé d'un pouvoir politique aussi à l'échelon national, et l'Arabie saoudite a joué ce rôle-là. Alors, lorsqu'on parle des tribus au Yémen, il faut bien voir que difficile on a mentionné le cas de la tribu, enfin de la confédération tribale des Hached. Cela ne veut pas dire que tous les membres de cette tribu soient, par exemple, membres du parti qui est dirigé par le cheikh Al-Ahmar, c'est-à-dire le Rassemblement yéménite pour la réforme, le principal parti yéménite, le parti islamiste. Mais ça veut dire aussi que ce parti qui est islamiste a aussi une base tribale très importante qui lui permet d'avoir une grande force de mobilisation. Donc l'Arabie saoudite a favorisé également le courant islamiste au Yémen, représenté par celui des frères musulmans, qui s'étaient alliés d'ailleurs au président Saleh durant les années 70, pour lutter notamment contre la guérilla aidée par le Yémen du Sud. Et son avatar, l'avatar de cette organisation des frères musulmans, le Rassemblement yéménite pour la réforme, est aujourd'hui dirigé par le cheikh Al-Ahmar, est aussi proche de l'Arabie saoudite. Un de ses idéologues importants, Abdelmajid Al-Zandani, aux côtés d'Ali Mohsen Al-Ahmar, le général qui, il y a peu, a fait défection pour rejoindre le camp de l'opposition, ces deux personnages ont aidé notamment à l'organisation du transfert des départs des moudjahidines yéménites vers l'Afghanistan en liaison avec l'Arabie saoudite. Donc tout cela pour montrer des liens extrêmement étroits avec ce parti et avec certains de ses membres. Après la victoire contre les séparatistes du Sud en 1994, un amendement constitutionnel a fait de la charia la source unique de la Constitution, alors qu'elle était auparavant la source principale. Mais ce qui est intéressant au Yémen, c'est que les plus radicaux au sein de l'islam, au sein du Rassemblement yéménite pour la réforme, ce parti islamiste, n'en sont jamais allés jusqu'à vouloir remplacer la loi tribale par la charia ou à lutter contre la consommation de qat, la consommation ou le commerce de qat. Ce qui est intéressant, parce que ça montre aussi qu'il ne faut pas non plus s'aliéner les autres chairs de tribu qui tirent aussi des bénéfices de ce commerce du qat. Alors, il semblerait qu'en avril 2011, les subsides à ces chairs de tribu ont été supprimés par l'Arabie saoudite, peut-être en attendant des jours meilleurs, en attendant de voir ce qui va se passer. Mais en 2010, le roi Abdallah avait décidé de verser 700 millions de dollars au Yémen, au dépit déjà de l'opposition de certains membres de sa famille, notamment du prince Nayef, en charge du dossier yéménite, et en raison aussi des détournements des aides qui sont opérées par le régime du président Saleh. Détournement d'aide, les Saoudiens, certains Saoudiens disant c'est pas la peine qu'on leur donne de l'argent puisqu'ils se retrouvent tout de suite dans des banques en Suisse. Donc cette suspicion par rapport à l'utilisation de cet argent a aussi été un moteur de suppression aussi également des aides. Alors le Yémen représente pour l'Arabie Saoudite une menace pour ses frontières, évidemment, à ses frontières en tout cas, pour de multiples raisons, au-delà du litige frontalier. La présence d'un régime pluraliste, qui est né en 1990 avec l'unité, qui contraste avec l'apparente fermeture du champ politique en Arabie Saoudite, où les partis sont interdits. La constitution de l'unité au Yémen en 1991 stipule le multipartisme, organise un système électoral et le pluralisme de la presse, même si l'autoritarisme du régime, à partir des années après la guerre de 1994, va de plus en plus essayer de réduire cet espace politique au Yémen. Il n'empêche qu'il y a au Yémen une vie associative et politique très riche. Et en plus avec un pluralisme idéologique assez important qui va de différentes tendances de l'islamisme au marxisme. La porosité des frontières est perçue évidemment comme une menace sérieuse pour l'Arabie Saoudite, car elle permet toutes sortes de trafics, mais aussi pour la circulation des militants djihadistes. En 2009, a été créé au Yémen Al-Qaïda pour la péninsule arabique, c'est-à-dire en fait déplacement de sa base saoudienne vers la base yéménite, avec aussi le transfert de certains militants saoudiens vers le Yémen. Cette organisation, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, est dirigée par Nasir al-Wahishi. En août 2009, un militant djihadiste saoudien réfugié au Yémen a prétendu qu'il était repenti, a essayé de se faire exploser, et s'est fait exploser d'ailleurs, a tenté d'assassiner le prince Naïef, qui le recevait justement à Riyad en tant que repenti. Alors le Yémen bénéficie d'un soutien international, ou bénéficiait d'un soutien international dans sa lutte contre le terrorisme, notamment des États-Unis qui ont fourni 150 millions de dollars d'aide militaire en 2010, une aide qui devait se monter à 250 millions de dollars en 2011. Des drones américains ont été aussi utilisés au Yémen pour assassiner des membres ou tuer des membres présumés d'Al-Qaïda. La dernière attaque d'ailleurs a eu lieu le 5 mai dans la province de Chabwa, donc c'est tout récent. Et c'est ce qui a permis aussi à Saleh, je crois que c'est une manœuvre assez commune, de criminaliser toutes ses oppositions en les accusant d'être associés avec Al-Qaïda. Donc cette criminalisation, ce prétexte Al-Qaïda, a permis à Saleh aussi à la fois d'attirer les aides occidentales et du Conseil de coopération du Golfe, mais aussi de criminaliser son opposition et de faire que finalement, jusqu'aux récents événements de janvier, le régime de président Saleh n'a jamais été mis en cause par les pays occidentaux qui ne mégotaient pas leur soutien. Des frappes très, très dures ont été menées par l'armée yéménite, notamment en décembre 2009 dans la province d'Abyan, au sud. Il y a eu à peu près une cinquantaine de victimes, de tués, et des civils, plusieurs dizaines de civils tués. Et ça a aussi provoqué, accru le ressentiment envers le régime, et ces frappes ont été menées sous le prétexte d'Al-Qaïda. Un autre conflit aussi intéresse beaucoup l'Arabie Saoudite, c'est le conflit au nord du Yémen, dans la province de Saada, la province frontalière d'Arabie Saoudite, avec une rébellion zaydite, des Houthis qui a commencé en 2004, conflit très sanglant qui a provoqué le déplacement de 100 000 personnes et aussi des milliers de morts. Là, en 2008, le Qatar a essayé une médiation qui a échoué, réussi en premier temps parce qu'il y a eu une conclusion d'un cessez-le-feu, mais ensuite, en 2009, la guerre a repris, et cette fois-ci, en septembre 2009, la guerre a repris et a débordé aussi sur les territoires saoudiens, suscitant ou donnant le prétexte d'une intervention armée de l'Arabie saoudite. Certains, d'ailleurs, observateurs ont relevé les piètres performances de l'armée saoudienne durant cette guerre contre des rebelles beaucoup moins bien armés, qui n'ont aucune couverture aérienne. D'autres ont prétendu aussi que la campagne militaire saoudienne a été un prétexte pour le prince Khaled de renforcer sa position dans le contexte de la maladie de son père, le roi Abdallah. Et sur le plan yéménite aussi, on a argué aussi d'une opposition entre le président Saleh et un proche du président Saleh, Ali Mohsen Al-Ahmar. Bon, certains disent qu'il est son demi-frère, d'autres qu'il est son frère de lait, d'autres son cousin, disons un proche. Et Ali Mohsen Al-Ahmar, qui est commandant de la région militaire du Nord et qui a mené la guerre contre les rebelles zaïdites. Et on a aussi excipé de leur rivalité pour la continuation de cette guerre. Donc on voit bien que finalement cette guerre de Saada a été aussi l'objet d'une affaire intérieure à la fois en Arabie Saoudite et à la fois au Yémen. L'Arabie Saoudite a bien sûr profité de cette guerre pour relancer le contrôle de pour développer le contrôle de sa frontière et a notamment vidé 80 villages de ses habitants dans la région de Najran du côté saoudien. Périodiquement, le président Saleh annonce que la guerre va se terminer par une défaite sanglante et rapide des rebelles, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est plutôt le contraire qu'il s'agit, puisque et même que les rebelles zaïdites se sont aussi alignés récemment avec l'opposition yéménite. Alors, est-ce que, question cruciale, mais auquel je ne vais pas répondre ce soir, est-ce que le président Saleh va fêter ses 33 ans à la tête du Yémen le 17 juillet 2011. Parce que je rappelle qu'il a pris le pouvoir le 17 juillet 1978, après que ses deux prédécesseurs, Ibrahim al-Hamdi et Ahmad al-Ramshmi, ont tous les deux été assassinés, respectivement, en 77 et 78. Depuis 90, le pouvoir du président Saleh s'est donc étendu à tout l'ensemble du Yémen. Et on peut quand même lui reconnaître une capacité très très grande, une habileté manœuvrière, ça il est certain, mais aussi une capacité très grande tout au long de son règne, si on peut dire, à intégrer ses rivaux dans les réseaux de pouvoir. Je crois que ça c'est un élément très important. Des réseaux de clientèle, dans ces réseaux de clientèle, il a intégré... dans ces réseaux de clientèle, d'ailleurs, qui vont de l'armée jusqu'aux tribus, il a intégré de nombreux rivaux, dont certains leaders de l'opposition. Et c'est une des raisons de sa survie politique, parce que lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 1978, on donnait peu cher de sa peau, on pensait même qu'en quelques mois, il allait disparaître de la scène politique, d'autant plus qu'il n'était pas reconnu pour une grande culture, c'était un militaire qui venait de la base. C'était un officier. Et donc, on ne pensait pas qu'il allait finalement conserver le pouvoir autant de temps, alors qu'il a été confronté dès sa prise de pouvoir par de nombreuses tentatives de coup d'État, même par une défaite militaire contre le Sud en 79. Mais ce mode de gouvernement basé sur le clientélisme, l'accès aux ressources de l'État, l'accès aux opportunités économiques, a produit un système politique qui produit une extrême centralisation du pouvoir. On voit bien aujourd'hui, par exemple, samedi soir, les partis de l'opposition ont signé l'accord de sortie de crise, si on peut l'appeler comme ça, avec des représentants du Congrès populaire général, le parti du président, mais lui, le lendemain, a refusé de le signer. Hein, donc une extrême centralisation du pouvoir, et aussi un essaimage du contrôle politique et de la force répressive au niveau local. C'est-à-dire... au verrouillage des forces armées et de sécurité correspond aussi la prolifération des petits chefs et de leur clientèle, qui peuvent aujourd'hui mobiliser, par exemple, des partisans à Sanaa. L'armée et les forces de sécurité compteraient près de 170 000 hommes. On ne sait pas exactement, parce que de nombreuses personnes peuvent être affiliées à plusieurs forces de sécurité. On parle aussi d'une... et donc parce que les militaires peuvent aussi parfois toucher plusieurs salaires. On parle aussi de 70% à 80% d'hommes de tribu dans l'armée, mais je ne sais pas si c'est vérifiable. Ce qui est sûr, c'est que 20% du... Enfin, ce qui est sûr, même cela n'est pas certain, mais ce qui est considérable, c'est que 20% du budget de l'État est aussi consacré à la sécurité et à l'armée. Dès le début de son pouvoir, le président Saleh s'est appuyé sur sa parentèle proche. Au début, c'était sur ces 7 frères qui ont dirigé les forces de sécurité, l'armée, etc., les postes clés de l'appareil militaire de sécurité. Aujourd'hui, évidemment, 20 ans après, 30 ans après, c'est plutôt ses fils et ses neveux qui sont au poste clé de l'appareil militaire et de sécurité. Son fils aîné, Ahmad, qui devait d'ailleurs le remplacer, qui apparaissait comme son successeur, est le chef de la garde républicaine. Il a été entraîné aux États-Unis et à son retour, garde républicaine d'ailleurs qui est censée lutter contre le terrorisme, et il en a pris le commandement après son retour des États-Unis. Un autre fils, Khaled, commande une division d'infanterie postée dans la région de Sanaa. Ses neveux, Ammar, qui a obtenu la Légion d'honneur, Yahya et Tareq, sont respectivement aux commandes de la Sûreté nationale, de la Sûreté centrale et de la garde présidentielle, c'est-à-dire toutes les forces de répression. Tandis que le demi-frère du président, Mohamed Saleh Al-Ahmar, est commandant des forces aériennes. Et Ali Morsed, qui a fait défection, son frère de lait, commande la première division blindée. Dans les régions, c'est par l'intermédiaire des chefs de tribu et des responsables locaux du Congrès populaire général, le parti du président, que le président Saleh tisse une trame sécuritaire qui se superpose aux organes de sécurité. Et on a vu tout à l'heure que ces chefs de tribu reçoivent des subsides mensuels d'une administration des affaires tribales au sein de l'État. Alors, le président Saleh a déjà été confronté donc à des crises très importantes, en 1994, lorsqu'il y a eu cette tentative séparatiste, mais cette tentative séparatiste de mai, qui a duré de mai à juillet 1994, avait été précédée d'un front commun de l'opposition qui rassemblait le Parti socialiste yéménite à différents petits partis yéménites. Et la crise était allée croissante. Il y a eu à peu près 150 militants socialistes qui ont été assassinés dans les années 92-93. Ali Salim Al-Bid était allé se réfugier à Aden. Et il y a eu aussi déjà un accord qui avait été signé. L'accord, le pacte d'Amman, qui avait été signé en avril 1994. Et quelques semaines après, en février 1994, et quelques mois après, était déclenchée une guerre par le président Saleh contre la tentative, qui n'était pas au départ une tentative séparatiste, contre le Parti socialiste yéménite. Et à cette époque-là, le président Saleh était allié du principal parti islamiste, le Rassemblement yéménite pour la réforme, du cheikh Abdallah Al-Ahmar. Alors, passons maintenant à peut-être ce qui intéresse plus l'actualité. Ce qui est au cœur de l'actualité, c'est le mouvement de contestation extrêmement important que connaît le Yémen depuis le début de l'année, mais qui a commencé bien avant. C'est important de voir aussi les racines de cette montée des contestations. On peut, par exemple, prendre le cas des émeutes de juillet 2005 qui ont eu lieu au Yémen, qui ont été organisées pour protester contre la baisse des subventions d'État à l'essence, et dont le bilan se chiffra à plusieurs dizaines de morts. Mais revenons et aussi à la contestation organisée par les partis de la rencontre commune, du forum commun de l'opposition, qui regroupe maintenant le Parti socialiste yéménite, ce qui est intéressant, avec le Parti islamiste, le Rassemblement yéménite pour la réforme, qui sont alliés au sein d'un forum commun, alors qu'en 1994, ils étaient des ennemis. Hein, mais là, on a vu qu'ils se sont regroupés à partir de 2002 dans un forum commun, avec aussi quelques organisations politiques comme le Parti de la Vérité, le Parti Zaydite, comme des organisations nasseriennes et baassistes. Et ce qui a été intéressant à voir, c'est que les manifestations de janvier et février 2011 ont bien sûr été inspirées par les modèles tunisiens et égyptiens. Et les slogans, finalement, réclament depuis lors un changement de régime, mais ont eu des racines profondes. Alors, ce qui a fait aussi basculer le mouvement, c'est également le fait que le 16 février 2011, un groupe d'étudiants a occupé une place devant l'université de Sanaa Ils auraient bien aimé occuper la place Tahrir, celle qui porte le même nom qu'au Caire, mais cette place était déjà tenue, où ils ont été évincés par les partisans du régime, ou par les forces de sécurité plutôt. Et donc ils se sont portés vers une place devant l'université de Sanaa, qu'ils ont appelée la place Tahrir, la place du changement. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement de protestation, au départ, n'associait pas les partis de l'opposition, qui étaient plutôt, disons, sur la réserve. C'est un mouvement de la jeunesse qui s'est porté, qui a commencé à s'organiser de manière spontanée au départ, mais qui a commencé ensuite à se structurer et qui a gagné toutes les villes du pays, Taiz, Hodeïda, Aden. Et à Aden et dans les gouvernements Nora du Sud, il y avait déjà une tradition de contestation assez forte depuis les années 2000, depuis en fait le développement d'un mouvement sudiste qui réclame une plus grande place et un partage des richesses, et puis aussi une réduction de la domination du nord vers le sud. Et ce mouvement sudiste, Al-Hirak al-Janoubi en arabe, avait commencé déjà dans les années 2000, a été un petit peu aussi relancé par le fait qu'en 2009, Ali Salem el-Bid est sorti d'Oman pour aller en Autriche. Et depuis lors, par provocation aussi, des drapeaux de l'ex-Yémen du Sud sont sortis durant les manifestations. On a réclamé aussi, certains manifestants réclament la séparation du Sud vers le Nord, etc. Mais tout cela pour dire qu'à Aden et dans les autres villes du Sud, il y avait déjà aussi un ferment de contestation extrêmement fort depuis les années 2000, notamment depuis les années 2005-2007. Ce premier ferment de contestation avait été lancé par les retraités, souvent les militaires, les fonctionnaires militaires et civils originaires du Yémen du Sud, qui avaient été mis à la retraite forcée et qui avaient été le ferment de cette contestation. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les manifestants à Aden, Taiz, Hodeïda, Moukalla, etc., expriment tous une même volonté de changement, une même aspiration démocratique, et un sentiment de désespération face à un régime usé et prédateur. Donc jusqu'à présent, c'est dans un cadre unitaire que s'expriment les revendications, et à un point tel que le mouvement sudiste a mis aussi en veilleuse ces revendications séparatistes au sud pour ne pas donner des armes au président Salaire qui, justement, accuse les opposants, ces manifestants, d'attenter à l'unité du pays. Donc, même si à Aden aujourd'hui il y a deux rassemblements dans deux places différentes, ou dans l'une il y aura plutôt les partisans de l'unité, dans l'autre plutôt les partisans du séparatisme ou d'une disons, sinon le séparatisme, disons d'une formule fédéraliste, il n'empêche que les slogans sont tous unifiés. Et on pourrait même se demander si la contestation n'a pas finalement fait plus pour l'unité du pays que la politique du président Salaire, qui lui l'a divisé, puisqu'on a vu que dans les années 2000 est né un grand mouvement de contestation au sud. Alors c'est aussi la répression, bien entendu, qui a intensifié. Voilà ici des photos de ces manifestations, donc pour voir aussi, pour montrer aussi un peu son ampleur. Là, je voudrais souligner aussi que certaines de ces photos ont été reprises, c'est pour faire de la publicité, un site internet récemment créé, La Voix du Yémen, en français. Donc voilà, donc ça me permet de faire de la publicité aussi pour ce site internet. Donc voilà, donc pas besoin de commenter. Alors cette répression de plus en plus accrue a bien sûr intensifié la mobilisation. Et finalement, le forum commun pardon, des partis de l'opposition a rejoint ce mouvement d'opposition. Et notamment le plus important des partis de ce forum commun, le Rassemblement yéménite pour la réforme, le parti islamo-tribal. Et son attitude est cruciale pour la suite des événements, parce que ce parti est le plus important. Il a une base tribale, comme on l'a dit, et il a aussi été un allié du président Salaire durant de longues années. Alors la coalescence, la convergence depuis les houthistes au nord, les rebelles zaydites au nord, le mouvement sudiste, le forum commun de l'opposition et le mouvement de la jeunesse, cette coalescence des oppositions est évidemment un risque majeur pour la perpétuation de ce dernier, pour la perpétuation du régime du président Salaire, mais aussi celui-ci agite le spectre d'une guerre civile. Agite le spectre d'une guerre civile. Et c'est ce qui explique aussi que les partis de l'opposition, le mouvement de la jeunesse notamment, aussi bien que le mouvement sudiste dans les années 70, ont toujours tenu à conserver le caractère pacifique de leur mouvement et de la contestation dans un pays aussi fortement armé que le Yémen. Récemment, des combats ont eu lieu à Sanaa entre les forces de sécurité et des hommes de tribu qui sont d'ailleurs des qui gardaient la maison du Cheikh Sadek al-Ahmar, donc la tribu Hached. Et il y a eu une réaction très, très, très soudaine de l'opposition pour dire, surtout, aux chefs de tribu, surtout, ne recourez pas à la violence ou aux armes. Alors, cette contestation de la jeunesse a été donc un tremplin, on peut dire aussi, pour les principaux rivaux du président Saleh. Pour le chef du parti Al-Islah, du Rassemblement yéménite pour la réforme, Hamid al-Ahmar, dont le frère Sadek dirige la tribu, la confédération tribale, mais aussi pour Ali Mohsen al-Ahmar, le frère de lait ou le demi-frère du président, qui a rejoint la contestation, notamment après l'épisode sanglant du 18 mars 2011, où presque 56 manifestants ont été tués à Sanaa par des snipers qui étaient logés dans les immeubles qui entouraient la place Tahrir. On a dit que le chef de la confédération tribale des Hached, son frère, le chef du Rassemblement yéménite pour la réforme, et Ali Mohsen al-Ahmar sont tous alliés de l'Arabie saoudite. La stratégie de Hamid al-Ahmar, le chef du parti islamiste, a été de se rapprocher du mouvement sudiste. Ce qui est intéressant, c'est justement qu'il y a eu des concertations avec le mouvement sudiste. Et par crainte d'une sécession du Sud, bien entendu, mais aussi pour s'allier face au régime du président Saleh. Au sein du régime, de nombreuses démissions ont eu lieu, au sein du Congrès populaire général, au sein du Parlement, une démission d'une cinquantaine de parlementaires qui sont affiliés au parti du président, de diplomates. Certains diplomates ont aussi pas fait défection, mais certains, ont critiqué la politique répressive du régime. Les ministres ont démissionné, 4 ministres. Et la répression a été sanglante dans toutes les villes du pays, du nord au sud, alors qu'autrefois elle était concentrée surtout sur le sud. Là, les tirs à balles réelles ont concerné toutes les velléités de manifestations. On compte aujourd'hui près de 200 morts, des milliers de blessés. Mais aussi, ce qu'on sait moins, c'est qu'aussi il semblerait que de nombreux jeunes ont été enlevés et tués par les forces de sécurité. C'est-à-dire qu'il y a aussi des agissements occultes de ces forces répressives. Et le président Saleh est allé même jusqu'à essayer de jouer la carte islamique. Il a, par exemple, critiqué la mixité dans les manifestations. Et il a dénoncé la mixité des manifestations, ce qui a suscité d'ailleurs des manifestations de femmes en réaction violente à ses propos, et aussi, malheureusement, aussi des réactions de la part de certains soldats de Ali Mohsen al-Ahmar, qui ont aussi tabassé des femmes à Sanaa, notamment, sur la place Tahrir. Et ici, on voit une image de Tawakkul Karman, qui est une membre du parti islamiste, Al-Islah, qui est un peu aussi une figure qui a un peu un côté égérie de la révolution également. Tawakkul Karman est aussi journaliste et elle est présidente de l'association de l'Union des femmes journalistes sans frontières mais sans entraves. Et c'est une figure très importante du mouvement qui a un franc-parler très fort, qui est très courageuse, qui a déjà été emprisonnée. Alors, ça c'est peut-être, encore un peu tôt. Alors donc, la déflexion la plus dangereuse pour le pouvoir a été celle de Ali Mohsen al-Ahmar, qui a été, on l'a vu, un acteur très important de la guerre contre les rebelles zaïdites et qui jouit du soutien de certains cercles du régime saoudien. Et dans certaines tractations pour essayer une tentative de sortie de crise, on a même proposé que les deux démissionnent, que Ali Mohsen démissionne de son poste de chef de la région nord, et que Ali Abdallah Saleh démissionne de son poste de président. Alors, le président, bien sûr, a été obligé de faire des concessions en raison de la montée des oppositions. Je rappelle qu'il a renoncé le 2 février 2011 à briguer un troisième mandat en 2013. Son mandat s'arrête en 2013. Il s'est dit aussi opposé à la transmission héréditaire du pouvoir. Et donc, son fils Ahmed ne le succédera pas, alors qu'il avait en 2001, en 2001 procédé à un amendement constitutionnel pour allonger la durée du mandat présidentiel de 5 ans, de 5 à 7 ans, afin que son fils Ahmed puisse se présenter en septembre 2013 à l'âge de 40 ans. Ce qui nous renvoie à un autre exemple, celui de Bachar el-Assad, dont le Parlement a fait un amendement constitutionnel pour qu'il se puisse présenter avant l'âge de 40 ans. Donc on voit des pratiques assez similaires. Et puis, il a décidé le report des élections législatives prévues en avril 2011. Alors, il faut faire attention aussi à ces manœuvres parce qu'il avait déjà déclaré en 2006 qu'il ne se représenterait pas aux élections présidentielles en 2006, qu'il a gagnées. Et il a été porté par des manifestations plus ou moins spontanées, entre guillemets, de soutien à sa candidature. Et donc c'était pour répondre à l'appel du peuple qui s'était encore une fois sacrifié en 2006 pour être le candidat aux élections présidentielles. Alors depuis, ce qui s'est passé récemment, c'est que depuis avril 2011, le gouvernement des États-Unis a pris ses distances avec le régime du président Saleh, ainsi que les membres du Conseil de coopération du Golfe. Et depuis le 7 avril, le Conseil de coopération du Golfe a pris l'initiative d'organiser un dialogue entre l'opposition et le président Saleh qui s'est tenu à Riyad. Alors, plusieurs plans ont été présentés, je ne vais pas revenir là-dessus, mais dès le premier plan, le 10 avril 2011, il était prévu que le vice-président succède au président Saleh pour une période d'un ou deux mois. Et le vice-président, Rabbo Mansour Hadi, est originaire du Sud, ce qui n'est pas totalement ce qui a son importance. Le Qatar avait proposé, d'ailleurs, dans une première version de sortie de crise, le départ du président Saleh, ce qui lui a valu des remontrances terribles de la part de Saleh, qui a même rappelé son ambassadeur, l'ambassadeur yéménite à Doha. Et le 28 avril, le Saleh a même déclaré qu'il ne voulait pas signer d'accord en présence des représentants de Qatar. Et il a bien sûr par ailleurs dénoncé la couverture de la révolution yéménite par la chaîne Al Jazeera. Alors, il a commencé, Saleh, à accueillir favorablement à partir du 11 avril une proposition de transition pacifique du pouvoir. Mais c'est au fur et à mesure qu'il a commencé à envisager, le fait de se démettre. Mais pendant une grande partie de cette période, la jeunesse, les mouvements de jeunesse qui commencent à se structurer, a rejeté le plan. Il a rejeté le plan, pourquoi? Parce que ce plan aussi prévoit la démission, le dernier plan en date en tout cas, prévoit la démission du président Saleh dans un délai d'un mois après la signature de l'accord. Au profit du vice-président, mais aussi en contrepartie de garanties quant à son immunité et à celle de ses proches. Et c'est ce qui, justement, a suscité les réserves d'une partie des manifestants. Les élections présidentielles sont prévues dans un délai de 2 mois, et entre-temps, un gouvernement d'unité nationale devrait être formé avec des représentants de l'opposition et du parti au pouvoir, ainsi qu'un conseil constitutionnel, et ça c'est important parce que pour le futur du Yémen, parce que ce conseil constitutionnel aura à élaborer une nouvelle constitution qui sera soumise à référendum. Qu'est-ce qui va être prévu dans cette nouvelle constitution? Certainement une réduction des pouvoirs du président, et peut-être aussi une nouvelle décentralisation, une nouvelle formule de décentralisation qui permettra peut-être de saper les revendications séparatistes au sud. Donc c'est extrêmement important, cette phase-là est extrêmement importante. Mais le vendredi 20 mai, le vendredi est un jour traditionnel de manifestation aujourd'hui dans le monde arabe, le vendredi 20 mai, le président Saleh a présenté cette proposition des pays du Golfe devant ses partisans rassemblés à Sanaa. Et il a critiqué l'attitude des pays occidentaux, des pays du Conseil de coopération du Golfe. Il a même considéré les révolutions arabes comme émanant d'un complot international, manipulé, orchestré par les États-Unis. Il a dénoncé la collusion supposée entre Al-Qaïda et le Parti islamiste, le Rassemblement yéménite pour la réforme, avec les frères musulmans yéménites. Et il s'est surtout aussi présenté comme le défenseur, le dernier rempart de l'unité yéménite. Ses partisans sont allés encercler l'ambassade des Émirats le 22 mai, où se trouvaient les diplomates des pays du Golfe, mais aussi l'ambassadeur des États-Unis et l'Union européenne. Et des hélicoptères ont dû être dépêchés sur le toit de l'ambassade pour qu'ils puissent s'en sortir. Et hier, 23 mai, des affrontements armés sont survenus entre les forces tribales du Cheikh Al-Ahmar et des forces de sécurité. Le président Saleh donc semble jouer à la fois la montre, mais peut-être aussi, à force de brandir le spectre du chaos, aussi peut-être jouer cette carte-là, de ce chaos qui entraînerait le pays vers la guerre civile. Et c'est peut-être la dernière carte qu'il pourra jouer pour éviter justement d'avoir à se démettre de son pouvoir. Alors, ce qui est intéressant, en conclusion, c'est qu'aujourd'hui, les principaux opposants au président Saleh, c'est-à-dire Ali Mohsen pour les personnaliser, Ali Mohsen Al-Ahmar et le Rassemblement yéménite pour la réforme du cheikh Hamid Al-Ahmar et de son frère Sadek, ont longtemps été les alliés du pouvoir, ont participé à ce pouvoir. Ils seraient peut-être en passe, finalement, de tirer les marrons du feu de ce mouvement de contestation, d'autant plus qu'ils sont fortement appuyés par l'Arabie saoudite. Et dans le même temps, le mouvement de la jeunesse qui commence à se structurer est devenu un socle de légitimité, qui a été même reconnu aussi bien par le Forum de l'opposition, Parti socialiste et Rassemblement yéménite pour la réforme, mais aussi, quelque part, par le président Saleh, qui a même, lors d'un de ses discours, invité les jeunes à venir le rencontrer dans son palais présidentiel. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce sont les effets à long terme du mouvement de la jeunesse qui a déjà réussi finalement à promouvoir une certaine idée de l'unité du pays à travers la contestation, à travers la revendication de citoyenneté et à impulser des actions de solidarité dans toutes les régions du pays. Ce qui sera intéressant aussi à voir, c'est le futur de l'alliance de l'opposition. Qu'est-ce qu'il va en être du forum commun, de cette alliance un peu contre nature entre le Parti socialiste yéménite et le Parti islamiste, lorsqu'il sera confronté aux prochaines échéances électorales et certainement des recompositions seront en cours dans cette scène politique. La survie aussi du Congrès populaire général et de son système clientéliste, qu'est-ce qu'il en sera, si son support, le support qui est cette relation directe entre les caisses de l'État et le président Saleh vient être démantelée. Le traitement de la question sudiste, est-ce que cette formule d'une décentralisation large pourra régler la question sudiste, notamment par le fait qu'on est confronté aussi à un partage des revenus provenant des ressources naturelles telles que le gaz et le pétrole, qui sont en grande partie situé dans les régions du Sud. On pourrait aussi contraster les interférences entre les pays du Golfe, le Conseil de coopération du Golfe par rapport à Bahreïn, où l'Arabie saoudite a envoyé des troupes, ainsi que les Émirats, et son traitement du dossier yéménite. Et dans les deux cas, il s'agit d'affaires intérieures pour les pays du Golfe, notamment pour l'Arabie saoudite. Mais on voit bien que là, par rapport au Yémen, autant pour Bahreïn, c'était aussi la crainte d'une extension de la menace iranienne qui a joué dans le cadre de cette intervention qu'on a appelée le bouclier du Golfe, autant pour le Yémen, c'est une autre raison qui joue. C'est pas parce que tout d'un coup l'Arabie saoudite s'est convertie en soutien des révolutions arabes, pas du tout. On voit combien ils traitent, même dans l'affaire syrienne, combien elle est réservée, même si la presse saoudienne est très virulente, mais combien les positions officielles sont très réservées. On sait que jusqu'à présent, l'Arabie saoudite, par rapport au Conseil national de transition en Libye, est aussi très méfiant, très réservé. Par contre, par rapport au Yémen, l'intérêt de l'Arabie saoudite, c'est d'éviter une déflagration destructrice pour elle, pour l'ensemble des pays voisins. Et dans ce cadre yéménite, elle possède un soutien très important, qui est le Rassemblement yéménite pour la réforme du Cheikh Al-Ahmar, qui est un allié ancien de l'Arabie saoudite et qui constitue aussi une alternative disponible, acceptable pour le régime saoudien. C'est ce qui lui fait finalement soutenir de façon un peu paradoxale ce mouvement de contestation yéménite. Je vous remercie.